Bonjour à tous, je suis ravi de présenter cette table ronde autour d'Elric. Tout d'abord un mot de prompt rétablissement à Michael Moorcock qui, hélas, étant malade, n'a pas pu se joindre à nous. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'il pourra nous rejoindre pour de prochaines utopiales, pour peut-être refaire cette table ronde à ses côtés et avec les auteurs de la BD. Donc autour de cette table, nous avions Julien Blondel qui a scénarisé l'adaptation d'Elric en bande dessinée. Julien Tello qui a participé au dessin et du coup maintenant est le seul dessinateur pour les tomes suivants. Et du coup, Xavier Lambourg nous a rejoint pour participer à cette conférence. Il est photographe, notamment portraitiste, et il a été lauréat du prix Niépce. Et en 94, de mémoire, j'ai pas regardé mes notes. Et du coup, a fait de la mise en scène et a fait un travail autour d'Elric que nous allons montrer tout à l'heure, dont nous allons discuter. Tout d'abord, première question et la plus simple, votre rencontre avec Elric, tous les trois, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a signifié pour vous dans votre carrière?
Je commence, bonjour. Moi c'est une de mes premières claques de lecture d'adolescent, de jeune adolescent. Sans doute une des premières rencontres avec le genre, la fantasy au sens large. C'est l'époque 10, 11, 12 ans, découverte du jeu de rôle, des livres dont vous êtes le héros. On comprend qu'il y a un univers imaginaire qui se cache dans ces livres étranges. On découvre Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, Stephen King. Mais Elric, ça a tout de suite eu une résonance particulière parce que à cet âge-là d'adolescent, c'était le seul personnage écorché qui avait des sentiments, qui avait des états d'âme. C'était pas juste Conan le barbare ou un magicien ou un guerrier, on sentait qu'il était en décalage par rapport à son univers. Et je crois que ça reste le personnage de fantasy dont je me suis toujours senti le plus proche, parce qu'il est humain, profondément en fait. Donc première rencontre assez jeune et m'a suivi depuis cet âge-là. Ouais.
Bonjour à tous. Moi, pareil, c'est un jour en fait, j'avais 16-17 ans, une amie me tend Elric des Dragons, une amie qui était rôliste et moi j'étais peu familiarisé avec ces univers-là. Et puis première lecture, et puis c'est une claque. Et puis c'était le moment où en fait je dessinais toujours en fait depuis tout petit et je recopiais beaucoup d'auteurs que j'aimais bien, où je faisais beaucoup de dessins à vue. Et avec Elric, c'était accordé au moment où j'avais envie de créer mes propres histoires. Et donc forcément ça marque, et donc c'est mes premiers dragons, premières armures, premières histoires de fantasy, c'est avec Elric que je les ai que je les ai faites, et puis bah, maintenant la série en BD quoi.
Oui, bonjour. Moi je suis un peu un adolescent attardé parce que j'avais lu de la science-fiction il y a très longtemps et puis j'ai totalement abandonné. Et il y a 3 ans j'étais invité pour être jury sur les films courts et puis je suis tombé dans ce monde que je ne connaissais pas du tout et il y avait Moorcock qui était là et on m'a dit, parce que je ne connaissais pas du tout les aventures d'Elric ni quoi que ce soit, oui, on m'a présenté ce monsieur qui m'a intrigué. J'avais acheté un petit livre que j'ai fait dédicacer sur Elric, je l'ai lu et je me suis retrouvé un peu dans une enfance de lecteur. J'ai retrouvé des sentiments que j'avais perdus depuis longtemps et du coup je les ai tous achetés et je les ai lus tout Elric en étant absolument passionné. Et il y a eu un effet qui correspond aussi à une évolution dans laquelle j'étais en photographie. J'étais en train de me diriger vers d'autres choses que le portrait parce que c'était surtout ça qui était ma voie. Et au travers de quelques images qu'on pourra voir tout à l'heure, je me suis inspiré des mondes de Moorcock pour transformer des paysages, en particulier sur des îles. Et là, ce qu'on verra, c'était un travail que j'avais fait à Porquerolles. Et il s'est trouvé que je suis venu pour photographier Moorcock. J'étais en relation par mail avec Linda, sa femme. On devait se retrouver cet été. Et ça n'a pas pu se faire. Et quand je suis arrivé pour photographier Moorcock, à la réception, on m'a dit... Il y avait Jeanne Desbats qui était là, qui m'a dit « Il n'est pas là, mais est-ce que vous voulez le remplacer ?» J'ai été liquéfié. Et j'ai pensé très vite à ces images que j'avais en tête. Je n'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit ici, évidemment. Et donc voilà, cette aventure extraordinaire, on est un peu dans la fantaisie, parce que du coup, j'ai dormi dans la chambre de Moorcock à l'hôtel, où il n'était pas là. Donc voilà, voilà l'aventure, et on verra tout à l'heure un peu l'influence, et sur autre chose, sur un portrait de Bowie, qui pour moi était le portrait d'Elric.
Et c'est marrant cette distinction, parce que du coup... alors que l'écriture psychédélique de Moorcock avec Elric est originaire d'un esprit du temps que tu as pu connaître dans les années 80, tu le découvres maintenant. Elric, et est-ce que ça parle d'un temps autre, et est-ce que tu y vois une distinction avec une littérature qu'on pourrait faire maintenant? Et
en fait, je m'en fiche parce que ça me plaît ce que je lis, et donc j'ai pas envie de comparer avec d'autres choses qui pourraient se faire maintenant. Je suis décalé, quoi. Je fais des voyages dans le temps, du coup.
Parce que du coup, entre ce que Julia et Julien ont dit sur le fait que ça les a accompagnés dès l'adolescence et le fait de le découvrir plus tard, est-ce que vous y verriez une différence, en fait, le fait de découvrir Elric à l'âge adulte ou le découvrir à l'âge adolescent? Est-ce que vous pensez qu'il y a ça provoquerait une distinction énorme dans la réception?
Oh, je pense, ouais, je pense. C'est une rencontre avec un personnage, Elric. Donc, en fonction de l'âge, de l'expérience qu'on a, du moment de sa vie de personne et de lecteur ou de consommateur d'univers de fiction, on va rencontrer un personnage comme ça. Il va avoir une résonance différente. Il va toucher, je pense, parce qu'il émerge du lot dans un contexte de fantasy. Où les auteurs mettaient des coups d'épée, et Moorcock il est arrivé en mettant une gifle, un truc très, très anglais, très envolé, très, très théâtral, et je pense que ça sortait du lot dans le contexte de fantasy de l'époque. Ça continue à le faire aujourd'hui. Après, oui, comme tu disais, c'est quand même des époques très marquées, très différentes. On parlait en 3 minutes, on a réussi à parler de Bowie, des années 80, de la fantasy, Lord of the Rings. C'est vrai que relire le Elric de Moorcock aujourd'hui avec ce style là, c'est un style qui est différent, c'est des descriptions qui sont différentes, c'est très psychédélique, il y a beaucoup plus de couleurs, d'adjectifs, de choses qui sont à peine suggérées que de descriptions très, très factuelles, et en même temps ça s'inscrivait au moment où lui il l'a écrit, vécu, il était adolescent, il l'a écrit très jeune, le premier Elric, une vingtaine d'années, donc il avait encore cette démarche un peu décorchée, et une culture que nous on n'a pas aujourd'hui, une culture de la vieille Angleterre mourante, du déclin, un côté très, très littéraire, très lettré, très théâtral chez Moorcock, qui est un grand fan d'auteurs français, d'auteurs classiques, en fait. Et nous, relire aujourd'hui, ou pour des adolescents ou des adultes qui le découvriraient aujourd'hui, y a un double niveau de lecture, je pense. Qu'il y a une dimension qui serait absente parce qu'elle était très originale à l'époque et qu'elle a l'air un peu plus. Elric a été pillé, enfin l'œuvre de Moorcock a été pillée par tout le monde. Tout le monde connaît ce personnage d'Albinos avec son épée noire, mais peu l'ont vraiment lu dans le texte original. Les gens sont habitués à Elric sans l'avoir lu, donc je pense qu'il surprend moins aujourd'hui. Mais ça reste une rencontre avec un personnage vraiment atypique, iconique, très, très fort, quoi.
Et du coup, dans votre adaptation, est-ce que vous avez dû faire des choix pour justement essayer de retracer un esprit du temps actuel plutôt qu'essayer de retracer un esprit du temps lorsque Michael Moorcock l'a écrit, Ou est-ce que c'était pas du tout une question
Sur l'adaptation, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'on a été obligé, comme dans beaucoup de démarches d'adaptation, de faire des choix de fil de narration, de qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on raconte pas, et dans quel ordre on va re-raconter une histoire ou l'histoire d'Alric. Donc il y a eu des choix de chronologie, on a la chance quand même que depuis le temps, il y a eu différentes éditions, des éditions dans l'ordre chronologique de l'histoire d'Alric qui sont sorties. Nous, on travaille avec l'édition Omnibus, par exemple, qui a recompilé les nouvelles dans le bon ordre, dans l'ordre de ses aventures. On a fait ces choix-là, évidemment, pour savoir de où on partait, jusqu'où on allait, ce qu'on mettait de côté, des choix d'adaptation. Mais on a aussi, je pense, inconsciemment fait des choix de modernisation parce qu'on a nos références culturelles d'aujourd'hui. On a nos films, nos autres romans, notre culture, notre consommation de séries. Et on n'imaginait pas faire un Elric qui ne soit pas baigné par ça, je pense, mais c'est plus ou moins inconscient. On a une notion du rythme, du spectacle, du développement des psychologies des personnages qui sont forcément imprégnés par ce qu'on consomme, ce qu'on a lu, ce qui nous a marqué. Et je suis pas certain qu'on ait fait ces choix-là consciemment. On n'a pas décidé de faire un Elric à la manière d'eux. On n'a pas fait un Elric Netflix, on n'a pas fait un Elric Del Toro. On a fait notre Elric à nous, je pense, modestement, avec ce qu'on avait dans la tête. Mais on est forcément influencé par notre culture moderne, comparée à la culture moderne de l'époque de Michael, en fait.
Et du coup, en dessin, essayer d'adapter ces... ces grandes descriptions extrêmement qui vont nous donner des images tellement différentes de l'un à l'autre, d'un lecteur à l'autre, justement par ce côté psychédélique. Comment ça s'est passé? Quel travail vous avez fait justement?
Déjà, il faut savoir que entre le Didier Poli, qui était le premier dessinateur sur la série, sur le tome 1, et on a 10 ans d'écart déjà, donc on a des références qui sont très très différentes. Et après, il y a aussi le média bande dessinée qui demande aussi d'avoir certaines images, certaines paginations qui évoluent aussi, qui a beaucoup évolué ces derniers temps aussi. Mais plus particulièrement sur les inspirations, moi j'ai été forcément bercé par le comics, tout comme eux en fait. J'ai les mêmes bases, mais ce qui a différé, c'est vers l'âge de 20 ans où vraiment là, j'ai découvert le manga et plus particulièrement Berserk de Kentaro Miura, qui a de la fantasy aussi. Donc je me retrouvais vraiment là-dedans. Donc voilà quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de justement mêler nos expériences et nos influences et au final avoir un album qui est homogène et qui reflète vraiment ce qu'on aime et qui on est quoi.
Et de façon générale, vous pouvez nous parler de la genèse du projet, comment vous en êtes venu à pouvoir l'adapter, comment se sont passées les discussions avec Moorcock, et notamment sur les questions d'adaptation, les questions de changement de scénario.
L'origine du projet, c'est Didier Poli, qui était dessinateur chez Glénat. Discussion informelle avec Benoît, son éditeur. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ce serait quoi ton grand rêve? Didier répond innocemment: moi, je ferais bien un gros monument de la fantasy, mais à la française, un Conan, un Elric, quelque chose d'un peu costaud. Didier, qui a comme nous un background de joueur de jeux de rôle, il vient d'un univers de la figurine, en plus d'être dessinateur. Et l'éditeur a fait son travail d'éditeur, il a dit « Ah, c'est intéressant », il a contacté les agents de Michael, il a discuté de la possibilité d'une adaptation en bande dessinée. Il y en a eu beaucoup en comics, il y a eu beaucoup d'adaptations d'Elric déjà par le passé, très différentes. Benoît a présenté le travail de Didier, la maison Glénat. Michael a été assez rapidement très favorable à en voir plus, à lancer le projet. Et ça s'est fait, voilà. Il a récupéré les droits, Michael a donné son feu vert. Ils ont cherché un scénariste qui vienne du même univers, jeu de rôle, qui a une approche un peu jusqu'au boutiste, intransigeant par rapport à l'univers. Ils sont venus me proposer, moi j'étais enchanté, j'avais arrêté la BD, je suis revenu pour Elric et je ne regrette vraiment pas. Et ensuite, le travail, ça a été sans Michael en fait. On n'a pas travaillé avec l'auteur. On a eu la chance de le rencontrer ensuite, de rencontrer la personne, quoi, vraiment de discuter avec lui d'Alric, de ce qu'il pensait de l'adaptation, mais c'est pas quelqu'un qui demande à valider toutes les étapes du moindre projet dans les détails. Il se laisse être agréablement surpris ou déçu. Il a cette élégance un peu rare, je trouve, chez les grands auteurs de son niveau, de laisser les choses se faire, de pas demander à tout voir. Il a pas demandé à valider les dessins, les représentations. On lui a présenté via notre éditeur de façon très très formelle le scénario. Il a dit OK, allons-y. Il a attendu que le projet se fasse et il nous a dit qu'il trouvait ça bien. On était ravis de ça. C'est pas quelqu'un qui va interférer avec le processus. Enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion de travailler sur des choses comme ça avec.
Mais en tout cas, le texte qu'il vous a écrit sur le premier album, c'est fantastique pour vous là.
Ouais. C'était un joli cadeau. C'était très touchant parce qu'on est on n'est pas des fans, on n'est pas, on n'ira pas arracher nos soutiens-gorge sur un concert de Michael, même si on adorerait le revoir en concert. Mais c'était très touchant de voir qu'il peut se permettre de dire juste c'est bien, merci, bisous, au revoir. Et il a eu envie de dire ça m'a vraiment plu, j'attendais une adaptation graphique de ce type-là. Il aime beaucoup la bande dessinée, il aime beaucoup la littérature et la création française. Et je pense qu'il avait été déçu, il s'était senti trahi assez régulièrement par le côté américain qui s'était emparé de son personnage. Elric, c'est pas Conan, c'est pas un Conan avec les cheveux blancs, c'est pas les gros biceps et des aventures fracassantes. C'est une sensibilité qu'il a retrouvée dans notre approche de jeunes français sur la bande dessinée, et je pense que ça lui a plu. Donc nous, on est ravis que ça lui ait plu. Mais il l'a découvert et on a découvert après ce qu'il en pensait. C'était ça qui était assez intéressant pour lui.
Et à aucun moment il a refusé quelque chose dans le changement de scénario ? Tout est passé, ou est-ce que parce qu'il y a quand même des gros changements, en tout cas dans les trois premiers tomes qu'on a pu voir.
Ouais, du coup je sais même pas si on peut en parler, si certains sont en train de lire le 3, donc on va pas rentrer peut-être dans tous les détails, mais on s'est autorisé on a pris des risques en fait sur le personnage de Seymour Hill, sur le personnage de Stormbringer, sur le rapport d'Elric à son épée, à Arioch, parce qu'on voulait resserrer le côté dramatique de ce trio, de ce quatuor avec l'épée. Ça nous paraissait, nous, évident que ça prenne cette forme-là dans un autre récit. Il a trouvé ça très bien. Il nous a dit que s'il devait réécrire Elric aujourd'hui, il le réécrirait de cette façon-là. Pas exactement comme nous, mais en creusant plus ces pistes-là, parce qu'avec le recul, il a écrit les trois premières nouvelles très vite. Il a tué Elric au bout de 4 ans ou 5 ans. Et après, il a redévelopper son univers, mais il referait certainement ces choix-là pour densifier ce qu'il avait mis dans ses personnages dès le début. Mais il ne s'est jamais ni opposé, ni placé en « j'aimerais valider les choses ». On lui a présenté ça, il a dit « ok, d'accord, allez-y ». Et il est plus capable d'être déçu par des choses invisibles, en fait. Il a un rapport très... très fusionnel avec Elric, c'est son personnage, ça reste son alter ego, il se reconnaît dans son Elric, et s'il ne se reconnaît pas dans la façon dont Elric va, je dis pas mettre ses cheveux, mais répondre à une situation, réagir ou ressentir quelque chose, ça va le toucher beaucoup plus que si on avait décidé qu'Elric en fait faisait du cheval ou un gros changement.
Il y a eu des exemples comme ça ?
Il y a des exemples dans le tome 2 en fait où il a encore une fois l'élégance de ne pas nous dire j'ai pas aimé, mais on sent qu'il a été surpris, touché par une réaction. Dans le tome 2, on met en scène Elric qui se retrouve dans les jeunes royaumes à la recherche de Seymour Hill qui a été enlevé par Yarkun. Et pour réussir à trouver la force, parce qu'Eric est faible, il a besoin de soutien, et il fait un sacrifice à Arioch, le seigneur du chaos, qui est devenu son parrain. On sent qu'Arioch le manipule, mais Eric a besoin de la protection d'Arioch, de son soutien, et il fait ce qu'il doit faire, et il passe la nuit chez une famille d'habitants humains des jeunes royaumes. Et le lendemain matin, quand ils partent, on voit la ferme en feu et ils ont sacrifié la famille à Arioch. Eric n'est pas content d'avoir fait ça. Il regarde au loin, il dit qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et ça l'a touché parce qu'il n'imaginait pas que son Elric, à ce moment-là, puisse tuer de sang-froid des humains. Il a compris, je pense, en discutant avec lui, que oui, c'est une offrande au chaos, mais il ne l'aurait pas fait. Et ça l'a touché en disant, mais non, ils n'ont pas compris mon Elric. Je pense que le tome 3 est arrivé, on en a reparlé, il comprend que oui, on est quand même bien fidèle à sa vision, mais il va être sensible à des petits écarts de comportement, d'émotion de son personnage, plus qu'à des gros changements de scénario, en fait.
Du coup, il y a un autre changement assez drastique, c'est le personnage dans le tome 3 du nécromant. Comment vous en êtes venu à changer aussi drastiquement cette histoire? Qu'est-ce qui vous a amené? Et niveau graphique, j'aurais voulu savoir les pistes que vous avez... que vous avez regardé sur le personnage original était quand même sublime, avec ses références au baron Harkonnen de Giger. Et du coup, comment vous êtes passé de cet énorme monstre à un personnage altier, noble au final?
Tout d'abord, on a justement creusé cette piste-là. En fait, on l'avait fait en première version de l'univers où il était. C'est arachnéen et il y avait des toiles d'araignées partout. Enfin, c'était. Mais après, il s'est posé la question de le voir bouger aussi, et poser le personnage dans une scène qui est. Et du coup, j'ai pris le parti de le rendre plus méniboléen, plus humain. Enfin, pas très humain, mais justement parce que ça facilitait les déplacements, mais. Et puis voilà, il y avait une part de beauté que je voulais quand même conserver dans ce personnage-là. Donc voilà, après, en termes de référence, c'est vrai que c'est. Je me suis basé beaucoup sur le Dracula de Coppola, quoi. C'est fait partie des références que j'apprécie et que j'ai utilisées, quoi.
Ouais, c'est un personnage qui était un gros piège pour nous parce que. On s'est beaucoup basé sur le navigateur sur les mers du destin. Qui contient trois grosses nouvelles qui sont très différentes, qui nous mettaient en danger au niveau de l'adaptation parce qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur certains éléments forts. Notre premier cycle, 4 tomes, va jusqu'à La Cité qui rêve avec le final que les lecteurs connaissent. Et on devait tendre un peu certains fils à ce moment-là. Et ce personnage de nécromant, dans le navigateur, dans les nouvelles originelles, c'est un Melniboneen plutôt hostile, plutôt agressif, qui court après l'amour d'une humaine qui ne l'aime pas. Et nous, on a voulu en faire l'inverse, en fait. On a voulu faire écho à Elric qui court, qui s'enfuit de Melniboné pour préserver la vie de Simoril parce qu'il a peur de la tuer s'il reste à son contact. Elle comprend pas son départ, mais il s'en va. Et on voulait mettre ça en parallèle avec l'histoire d'un Melniboneen qui, par amour pour une humaine, avait tout sacrifié, tout perdu, renié les seigneurs du chaos, etc. Et du coup, ça impliquait, comme Julien disait, ça impliquait qu'on ait un personnage qui puisse se déplacer, parler, qui ait une certaine aura, qui incarne quelque chose, qui incarne. Ce qui a pu être un empereur de Melniboné 4000 ans avant Elric, en termes de puissance, en termes de majesté, mais aussi en termes d'humanité, de rédemption à la fin de cet album, où en fait il craque, il retrouve cette capacité d'aimer et de se sacrifier. Et il nous fallait forcément un personnage avec une certaine beauté, ou qui puisse retrouver une certaine beauté. Et du personnage très nécromant, Baron Harkonnen, qui avait été les premières pistes pour poser un Melniboneen puissant, mais un peu maléfique, entre guillemets, on a évolué et au scénario et au dessin en parallèle vers quelqu'un capable d'avoir de la grâce et d'être un négatif d'Elric avec 4000 ans d'écart, quoi.
Et l'importance de ce personnage aussi est au final qu'il. Qu'il est le premier à dévoiler un peu le côté éthéré de l'histoire de Melniboné. On sait que c'est un empire glorieux, on comprend qu'il est sur sa fin, mais au final, on ne sait rien de, à part du fait qu'il il réduit par sa puissance militaire les autres. On ne sait rien de son histoire, de comment ils en sont venus là, comment ils se sont alliés au Seigneur du Chaos. Et pour la première fois, pour une quinzaine ou une vingtaine de planches, on a une piste. Et du coup, comment s'est passée cette décision de le mettre ici et,
En fait, ça rejoint une des grosses questions qu'on s'est posées dès le début avec Didier il y a quelques années quand on a commencé à envisager l'adaptation d'Alric. C'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on dit dès le début. Nous, on connaît l'histoire d'Alric jusqu'à la fin des temps. On connaît les jeunes royaumes, on a joué au jeu de rôle, on est capable de donner des noms d'auberges dans des royaumes aux confins. On connaît l'âge des personnages qu'on rencontre, on sait combien coûte une chopine de bière. Enfin, on a un rapport de voyageur avec ces jeunes royaumes. Mais pour un lecteur qui découvre Elric par la bande dessinée, et on est ravis qu'il y en ait, qui découvre le personnage par la BD et qui vont ensuite lire les romans, ou juste pour des lecteurs d'Elric qui ont envie de voir où cette adaptation va les emmener, démarrer en posant tout l'univers, tous les seigneurs du chaos, le multivers, Hawkmoon, Corom, Irekese, tout ce monde-là, d'un coup, ça faisait trop. Ça faisait trop et en même temps, c'était pas respectueux de la façon dont Michael a écrit Elric au début. Elric, ça commence par l'empereur albinos sur son trône de rubis, regardé au loin en... D'emblée, c'est posé, en fait. Il ne met pas des pages entières. C'est l'inverse de Tolkien. Il ne va pas dire... il ne va pas mettre en place l'univers, la généalogie, l'histoire. Les personnages ne se présentent pas en disant « Bonjour, je suis machin, fils de bidule, fils de truc. » Ils arrivent et ils font ce qu'ils ont à faire dans l'histoire de façon assez brute. Et ensuite, en toile de fond, on découvre un univers, des guerres fondatrices. On entend parler des Darzi qui existaient il y a plus de 10 000 ans. Mais ça arrive petit à petit, en fait. Et nous, en adaptation, on est obligé de poser... Je fais un parallèle avec le cinéma ou avec des choses très, très graphiques. On doit mettre en place, dès le début, des visuels de référence. On a commencé...
Si je peux permettre, il y a quelque chose, par exemple... Moi, c'est vrai que j'avais un tout petit peu peur avant de lire vos aventures d'Elric. Parce que l'interprétation en BD ou au cinéma, on est parfois déçu. Et surtout quand on des gens qui n'ont pas lu Elric, qui vont découvrir Elric par cette BD, il y a deux choses que vous avez vraiment très bien réussi. C'est pour ça quand tu parles de cinéma, c'est la voix off de Stromberger, où ça aide vraiment à comprendre peut-être pas mieux, mais comme dans le roman, l'intensité maléfique de ce personnage, et ça c'est une grande réussite dans le bouquin, ça, parce qu'on la sent parler très fort, et le choix du Arioch, parce qu'Arioch il prend plusieurs allures dans les romans, et c'est vrai que moi dans la lecture c'était l'enfant, le petit ange qui m'avait marqué le plus, et là c'est extrêmement réussi, et je pense que les gens qui vont lire après vont s'accaparer votre Arioch de toute façon, et je pense qu'il est très très proche de ce que pouvait imaginer Moorcock.
Merci pour tout ça. C'est vrai que le choix d'Arioch, il est décrit dans les nouvelles, il a plusieurs incarnations assez emblématiques. Il y a cette espèce de géant avec un homme intégral et une énorme hache. En première apparition d'un seigneur du chaos, ça faisait un peu caricature, même s'il s'en sert, Michael, dans certaines des nouvelles, il l'évoque de certaines façons. On voulait essayer de casser ce côté cliché, en fait, ce que Michael fait dès le début dans Elric, il casse les codes, les personnages ne se comportent pas comme
il devrait. Il fait peur, cet ange. Il est monstrueux, là. Et ça, vous l'avez vachement bien mis, quand on sent qu'il est pervers. Vous mettez très bien la perversité d'Arioch et la lutte que Elric fait à un moment avec lui en s'opposant comme ça, jamais personne n'a osé contredire Arioch. Ça, c'est très, très, très clair dans votre histoire.
Mais je pense là-dessus, je reviens sur les références de Julien, notamment. On a, je pense, inconsciemment absorbé du Akira aussi dans cet enfant. Il y a un côté menaçant dans sa fragilité. Il arrive en flottant, c'est un enfant, il est nu, il a peur de rien, il a les yeux noirs, et Elric est terrifié par ce qu'il voit. Et il incarne cette puissance. Et je pense dans les références modernes, on a des exemples sur Akira où on sent cette puissance potentielle avec un dessin très simple, très, très épuré. Et le personnage, l'icône de l'enfant est assez efficace pour ça. Donc ça s'est imposé assez vite pour nous.
On va essayer de parler un peu du coup de ton projet. De ta série Apocrolle, et après j'aimerais voir une discussion autour du fait que, en fait, on va voir les photos qui sont plutôt oui tout à fait, mais quand on va l'allumer, je pense que ça va se faire. Hop. Ah bah là c'est du coup ça c'est la fin de mais hop,
c'est le début aussi.
Ouais, c'est le début aussi. Du coup on est plutôt sur de la nature inspiré par Elric, alors que moi ce qui m'avait frappé dans l'adaptation de Julien Blondel, c'était plutôt la décadence de la ville, son côté chaotique, l'urbanité extrêmement présente, et du coup voir les différences que le chaos a pu inspirer tant dans la nature que dans la ville. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces photos, de ce projet-là ?
Donc, en fait, un auteur, un dessinateur, il part de son imaginaire et il peut arriver très vite à mettre en place son imagination. Et donc, pour un photographe qui veut transcender la nature, qui ne veut pas se contenter de... Par exemple, cette image, c'est une image totalement vraie et totalement fausse. Je suis allé à Porquerolles, et de cette visite à Porquerolles m'est revenu des lectures d'Elric, et aussi une lecture de Jean Rey, Malpertuis, où le personnage vient capturer des dieux abandonnés de l'Olympe pour les mettre dans une maison à Gand. Et donc, en fait, quand j'ai fait mes images, en fait, j'étais venu à Porquerolles ne voulant pas faire d'images, donc je n'avais pas amené d'appareil photo. Et pour finir, à un moment, j'ai sorti mon iPhone. Et donc là, on peut voir un espèce de dieu abandonné. Et j'ai commencé à avoir des visions des monstres, plein de choses qui me sont apparues. Et quand je suis rentré chez moi pour travailler les images, elles étaient faites en plein jour, elles étaient lumineuses, et on ne percevait pas mon délire. Et donc... j'ai mis pas mal de temps, j'ai passé un été de recherche pour d'autres projets à travailler comme un vrai chercheur autour d'images, savoir comment interpréter des images sur des thèmes totalement différents. Et à un moment m'est revenue une scène de délivrance de John Borman quand Burt Reynolds escalade la falaise et pour aller tuer un des types qui est en train de les dézinguer. Et il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, il y a une sorte de nuit américaine de solarisation. Ça dure très peu de temps, mais c'est un des plus beaux moments de cinéma au niveau des lumières qui existent. Et d'un seul coup, je me suis dit, je dois aller vers ça. Et donc, je suis reparti sur mes fichiers et je les ai assombris totalement. Je suis parti du noir et j'ai rééclairé, j'ai remonté les images pour refabriquer totalement les décors comme si je peignais. C'est-à-dire l'image qu'on avait vue avant avec l'éclaircie de la mer, tout ça c'est complètement fabriqué parce que c'est en plein jour, c'est tout plat, c'est tout éclairé. Et là, Bon, là, par exemple, on voit ces visages, on retrouve dans les détails, surtout dans vos dessins, des choses que vous avez faites, on peut en passer une autre après. Ah oui, alors ça, c'est un truc qui était hallucinant, c'est une apparition, c'est une fée qui est venue, il n'y a absolument aucun trucage, c'est une algue séchée qui s'est posée sur un rocher. Et j'ai fait un petit traitement d'assombrissement aussi des rochers et tout, et là on a l'impression qu'il y a une planète, qu'elle est dans qu'il y a des rochers, qu'il y a un monde, qu'elle arrive sur Terre. Et donc ça, ce sont des bases où je vais peut-être explorer un personnage comme ça en le transformant, en peut-être en le détourant et en l'amenant dans des petits décors différents, en écrivant une petite histoire qui serait un petit conte. Parce que j'aime bien parfois écrire des petites histoires. J'ai inventé des petites histoires pour mes enfants et puis j'en ai fait des petits trucs. Il y a eu une seule fois une chose qui avait été publiée, un conte fantastique dans Harakiri quand j'y travaillais. Mais donc là, cette liberté que je vais me donner sur la photographie qui n'a plus rien à voir avec ce que je fais normalement, mes travaux de portrait et autres, c'est vraiment grâce à Moorcock que je me suis dit j'y vais, parce que ce qui s'est passé quand je me suis mis à lire Moorcock, c'est pas uniquement l'aventure d'Elric ou les choses, mais j'ai été absolument fasciné par les multivers et les choses qui m'a amené à j'ai baigné, je me suis promené vraiment comme si j'étais rentré dans les livres, dans les paysages. Et quand je recherche maintenant cette voie, par exemple là cette photo, c'est une photo en plein jour, et là celle-ci elle est plutôt influencée par, là j'étais il n'y a pas très longtemps, j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai vu le musée russe avec des paysages du 18e siècle, et j'ai eu envie de me faire un tableau russe à partir d'un arbre en plein jour. Et donc l'espèce de petite vapeur qu'on voit, c'est simplement des remontées de lumière par rapport à l'image quand elle est totalement claire. Et là, elle est assombrie et elle est remontée par endroits. Donc là, je suis aux prémices de ces travaux. Donc je vais continuer. Et donc c'est à la... Bon, c'est comme on voit tous des choses, qu'on voit des rochers, qu'on voit dans les nuages, on voit des personnages, chacun y voit ce qu'il veut. Mais là, je vais aller plus loin et essayer d'en faire de véritables histoires, d'une sorte de... un travail quasiment de roman photo, en mettant en scène la nature et en y apportant quelques personnages. Voilà. Et puis avec Moorcock... j'ai une envie, donc je voulais lui en parler là, cette fois-ci, suite à la lecture de Mother London, qui a été un livre difficile pour moi, mais qui m'a quand même intrigué. Si c'est possible, un jour, j'aimerais accompagner Moorcock dans Londres et faire une série de photos de lui dans différents lieux et faire une sorte de voyage au travers de son roman, retourner sur des lieux du livre. Voilà, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais c'est un de mes souhaits.
Et du coup, cette dernière photo est la première, celle de Bowie.
Ça, c'est une photo prémonitoire que j'ai faite il y a très longtemps. C'était en 83 à Cannes pour Merry Christmas, Mr. Lawrence Furio, où c'était Richie Sakamoto qui avait fait la musique. Et donc j'avais fait des portraits d'un petit peu tout le monde, sauf que Bowie, je n'avais pas pu avoir un vrai rendez-vous avec lui, comme je l'ai eu avec les autres pour Libé. Je travaillais pour Libé à l'époque. Et donc c'est une photo que j'avais fait au 6-6, noir et blanc, que j'ai extrêmement agrandie. Et elle était très très différente de toutes mes photos à l'époque. Elle me choquait un peu, même personnellement, mais je l'avais quand même mis dans un premier livre que j'avais fait en 83 avec les cahiers du cinéma. Et là, récemment, cette photo a repris beaucoup plus de valeur pour moi. suite à la disparition de Bowie, de la façon dont il meurt dans son clip. Et puis quand effectivement j'ai lu Elric et que j'ai vu dans les textes qu'on parlait de Bowie, je me suis dit c'est un Elric, ce Bowie. Et il aurait pu très bien jouer Elric si ça s'était fait à l'époque.
Vous me disiez justement hier que vous auriez voulu pour le deuxième tome que l'avant-propos soit par David Bowie, c'est cela ?
On est ravis que ce soit Alan Moore, mais on aurait adoré, et je pense que Michael aussi aurait adoré. Ça fait partie des grandes icônes qui auraient eu des choses fascinantes à dire sur d'autres grandes icônes, parce que des Bowie comme des Andy Warhol, peut-être ils ont une sensation de l'air du temps, d'une époque, et je suis convaincu que le personnage d'Elric, visuellement, graphiquement, et ce qu'il représente, le côté albinos, les cheveux blancs, le côté iconoclaste, vraiment par rapport à ce qui se faisait au niveau culture, pop culture, graphique, photo à l'époque, Bowie a forcément été sensible à ça, et aurait dit des choses super intéressantes, en plus de pouvoir faire un super Elric au cinéma. On aurait été ravis de lire ce qu'Elric pouvait dire à Michael sur son personnage d'Elric. Ouais.
Tout à fait. Et il y a dans Elric et chez Bowie cette force de subversion extrêmement forte qui est presque incompréhensible. On n'arrive pas à savoir ce qui est si fort et qui nous marque tant. Tant chez l'un que chez l'autre.
Sur Elric, c'est vrai que si on l'observe par le prisme Bowie ou artiste, il a un côté artiste. Le personnage Elric, il a une liberté, il a une sensibilité, il a une façon de s'exprimer ou de réagir à son environnement, qui est une façon de poète, d'artiste maudit. Qui est très générationnelle en plus, qui est intéressante. Ce qui touche dans Elric, je pense que chacun est touché par Elric d'une façon différente. Pour certains, c'est juste le côté saisissant graphiquement du personnage. Pour d'autres, ça va être le côté dramatique, tragique de son histoire, le côté jouer du destin, promis à la mort, promis à causer, provoquer la mort de toutes les femmes qu'il aime, de provoquer la fin du monde, de lutter contre son destin, mais d'être rattrapé, d'être le jouet des dieux. Ça en fait un personnage qui est attachant. Il a cette fragilité-là et il a, comme tu disais, cette force de subversion, de pouvoir à un moment dire... allez fuck, je me casse quoi. Enfin, votre univers m'intéresse plus. Je vais aller voir ailleurs. Je vais quitter. Je suis l'empereur de Melniboné. Ariok me donne sa protection. J'ai une épée du chaos. Eh ben, je me barre quoi. Voilà, je me barre explorer les jeunes royaumes. Je vais aller apprendre un peu la vie au contact des hommes. Je vais ressentir des choses. Je vais vivre. Et c'est rare d'avoir un personnage comme ça. Et je pense que en ça, il n'est pas si éloigné d'icônes. Comme Bowie qui va pouvoir passer d'un art à l'autre, changer de façon de s'exprimer, être là où on ne l'attend pas, donner sa vérité et avoir ce côté un peu lunaire, androgyne, physiquement dans ses apparitions extrêmement soignées, très, très esthétiques, qui le rapproche de ce personnage d'Elric d'une certaine façon.
Et d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas ça aussi, être un serviteur du chaos lorsque on crée un empire, de savoir partir et ne rien en faire.
C'est sans doute ça, même si Elric lutte contre le fait d'être le jouet du chaos, il devient le champion de la balance, qui est encore un concept difficile à cerner au début, qu'on appréhende mieux quand on passe dans le multivers, quand on rencontre les autres avatars du champion éternel. Il refuse d'être le jouet de quoi que ce soit. Et pour Michael, on en a beaucoup discuté. Je me souviens, au moment de la sortie du premier tome, il y avait une conférence assez intéressante à la Comic-Con à Paris, où il y avait dans le public des joueurs de jeux de rôle, des amateurs très, très pointus du design du lobe doré des Melniboné, de la forme du symbole du chaos, qui avaient demandé à Michael ce qu'il entendait par la loi et par le chaos, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ? Et Michael avait répondu le chaos, c'est la créativité d'une certaine façon. Et c'est une réponse à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Nous, on le ressentait parce que du chaos va naître quelque chose, forcément. Et il a ce rapport assez, assez artistique au chaos. Pour lui, le chaos, c'est ce qui va faire exister des choses à partir de rien, ce qui va refuser le côté linéaire, carré, blanc de la loi. La loi qui va être le côté, je pense, rigidité un peu sociale ou autoritaire à l'époque. Et pour lui, le chaos, ça représente ça. Donc Eric, malgré lui, devient un avatar du chaos parce qu'il fait exister des choses. Il transforme la destinée de son peuple, il provoque la mort des Mélniboneens, il est là où on ne l'attend pas, mais il y a cet élan créatif, je pense, chez Moorcock sur le rapport au chaos. Le chaos, c'est pas le mal, c'est pas la destruction, c'est ce qui va permettre de faire émerger des choses.
Il nous reste un petit peu moins d'une dizaine de minutes. S'il y a des questions dans la salle, on va essayer de faire passer un micro. Sinon, on peut continuer. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe ? Ah bah, parfait.
Merci, bonjour. Je voulais demander à Julien Blondel ce qui a motivé pour lui le passage d'un auteur dans le domaine du jeu de rôle à celui d'auteur de bande dessinée.
L'argent, les femmes et la cocaïne. Non, en fait, je travaillais aux Humanoïdes Associés à l'époque. Je m'occupais de l'adaptation en jeu de rôle des Métabarons avec Jodorowsky. Et machine à café, discussion avec les éditeurs de BD des Humanos m'ont dit « Pourquoi tu fais pas de la bande dessinée ?» Donc du coup, j'en ai fait, tout simplement. C'est vraiment des histoires de rencontres. Je suis pas lecteur de BD à la base. J'ai pas une grosse culture bande dessinée. Je suis plutôt comics, plutôt roman. Et j'ai découvert sur le tas une autre façon de raconter des histoires. Alors qu'en jeu de rôle, on passe notre temps à inventer des univers dans lesquels d'autres vont faire leurs propres histoires. Et même en faisant des scénarios de jeu de rôle, on a un concept, on a une fin, on a des personnages, mais on ne fait pas tous les choix soi-même, en fait. On laisse aux meneurs de jeu, aux joueurs, le choix de décider de ce qu'ils vont vivre comme aventure. Et en bande dessinée, non seulement on raconte une histoire, une seule, on laisse le choix à personne, mais on doit se poser énormément de questions de comment on va raconter cette histoire, le découpage, les cadrages, les choix qu'on fait, un format ultra restreint, qu'est-ce qu'on met en page de droite, qu'est-ce qu'on met quand on tourne, comment on travaille cette histoire, comment on la raconte. Ça, la collaboration en BD, elle est fascinante pour ça, parce qu'on pourrait raconter la même histoire de 50 façons différentes, juste en changeant 3 cases ou en rajoutant 2 pages. Donc ça a été une opportunité, une occasion, une rencontre avec les Humanos à l'époque, et la découverte d'une nouvelle façon de raconter des histoires plutôt cool, quoi.
En tout cas, oui. Allô, oui. Merci en tout cas pour avoir mis une image sur notre imaginaire d'enfance au travers de la BD. D'avoir pu concrétiser ce que nous on avait imaginé quand on était enfant. Et c'était pour ça que je voulais vous remercier.
Merci pour ça, mais c'est intéressant de. Merci beaucoup pour ça. C'est intéressant d'avoir des retours de lecteurs, parce qu'on est tous fans d'Elric, au sens où on est assez intransigeant avec le personnage, avec ce qu'il représente pour nous. Et on a été surpris de se rendre compte qu'on n'avait pas déçu beaucoup les lecteurs, en fait. Quand on fait un film, quand on fait une BD sur. Un personnage qui a déjà été illustré 50, 100 fois de 100 façons différentes. En reproposer une nouvelle, on savait qu'on prenait un risque au-delà des choix de scénario, de ce qu'on raconte. Et d'entendre des gens nous dire bah, « moi je le voyais plutôt comme ça », ça fait super plaisir en fait, c'est hyper important.
Et est-ce qu'il y a eu déjà une approche, si vous êtes au courant, pour du cinéma? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été tentées? Est-ce qu'il y a des choses qui se tentent en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose?
S'il y avait quoi que ce soit, je serais obligé de dire qu'il n'y a rien. Non, il y a eu énormément de choses qui ont été tentées en audiovisuel. Il y a eu même beaucoup d'options, de projets de cinéma qui ont été signés avec Michael. Beaucoup de scénarios qui ont été écrits depuis quelques années déjà, hein, c'est pas récent. Et c'est, j'ai envie de dire, heureusement jamais allé au bout. Parce que Michael n'était pas content du tout de ce que ça allait donner. Les projets les plus aboutis en film sur Elric, ça se transformait en buddy movie, blagounette cacahuète avec un gros balèze à côté d'Elric. Il rigolait, il faisait des aventures, et c'est pas Bud Spencer et Terence Hill, quoi. Enfin, ça allait pas dans le bon sens. Donc, heureusement, c'est
tant
pas allé à
tant
terme.
Mieux, ouais.
Voilà. En ce moment, ça, c'est pas un secret. Il y a des discussions sur une adaptation en film avec les États-Unis. On n'en sait pas plus. Michael, certainement un tout petit peu plus que nous, mais pas tant que ça. C'est des choses qui prennent du temps. Il y a une option qui a été signée il y a une petite année, je crois. On espère cette fois que ça ira au bout et que ce sera bien, mais Michael continue de rêver d'une adaptation à la française. Il serait ravi de, il serait confiant, il serait rassuré de voir des Français s'emparer, mais ça demande une vraie approche, ça demande de la confiance, ça demande un réalisateur qu'on a, ça demande du budget et je pense qu'au fond de lui, il serait heureux d'avoir une adaptation au cinéma à la française.
Cette option, elle est liée à la publication de l'adaptation BD, à votre avis, ou c'est une option qui était là avant ?
Non, je pense pas. Enfin, je pense que Elric n'a pas besoin de nous pour fasciner, pour motiver des chouettes projets. Nous, on serait ravis de faire un film à partir de la bande dessinée. Mais je pense pas que ce soit la BD qui ait provoqué ou accéléré cette discussion.
Mais par contre, ce que j'avais commencé à te dire quand on s'est contacté, c'est que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de faire va aider beaucoup plus la possibilité d'un film, parce que vous avez déjà commencé à scénariser des choses qui peuvent être, qui pourraient être réussies au cinéma. Je pense que ce serait en partie grâce à votre travail qu'il pourrait exister un film, en espérant que ce soit bien.
Écoute, si on se retrouve à Cannes dans 10 ans et qu'on a la même discussion, nous on sera les premiers ravis. Non, c'est très gentil, mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait au début sur les influences qu'on a malgré nous. On s'est emparé d'Elric en étant issu d'une génération de certains films, de certaines séries télé. Et ça se ressent sans doute dans le découpage, dans l'approche, dans les choix de cadrage, dans les plans, au-delà du scénario, le côté visuel, la façon de raconter de l'histoire est plus moderne malgré nous, hein, quoi qu'on y fasse.
Mais de toute façon, je pense que par rapport à ce qui se passe au cinéma, c'est beaucoup plus dans la lignée de Game of Thrones que ce serait bien, parce qu'un film, en général, on est obligé de résumer. Et Elric, il faut que ça dure longtemps, longtemps, longtemps. Et je pense que ce qui serait bien, c'est une série et non pas un film qui résumerait ou en deux films. C'est faire cette voie-là que ce serait le mieux.
Nous, je pense qu'on serait assez partant pour les deux en tant que spectateur. Je veux dire, on adorerait, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens, les lecteurs d'Elric, on adorait avoir un rendez-vous régulier avec Elric et les personnages de l'univers à la façon d'une série. Mais en même temps, Elric, il y a aussi une démesure, une grandeur, une décadence. On a envie de scènes de malades, on a envie de musique, on a envie de plans de caméra hyper ambitieux. Enfin, on aura envie d'un film, enfin de la dimension d'un film aussi, je pense. Je dis pas que les séries manquent de dimension, mais sans prendre plein la tête pendant 2 heures, moi, ça me ferait rêver aussi, vraiment, avec une vraie approche cinéma.
3 heures.
Allez, 3 heures. Écoute, je te suis sur ça.
D'autres questions, peut-être ?
On a dû être très bon ou très mauvais, en fait.
De toute façon, on arrive à la fin, donc on... Ah, si, il y en a une juste là.
Oui, d'abord merci, parce que moi, je me suis régalé depuis la sortie du premier volume. Donc, je disais plus de SF depuis déjà très longtemps. J'ai 40 ans, hein, donc j'en lisais à 15-20 ans, Hawkmoon et Elric. ça a bercé les aventures, jeux de rôle, etc. Et quand il est sorti, bah, je l'ai appris dans les rayons. Et ça a réveillé plein de choses. Et aujourd'hui, bah, je m'éclate en relisant et en relisant à nouveau vos volumes. Donc, merci pour tout ça. Et alors, moi, j'avais une question. Voilà, vous êtes au troisième volume. Le troisième volume vient de sortir. Il est en librairie. Il est très bien fait. Bon, je connais pas la réalité de votre travail, mais parfois le temps est un peu long entre les volumes. Bon, c'est vrai que ce troisième volume, moi, je l'attendais, je regardais sur Facebook. Vous diffusiez des planches en noir et blanc. C'était vraiment top. Mais c'est quoi la réalité, le temps imparti pour sortir un volume? Puis peut-être que vous avez d'autres projets par ailleurs. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
Merci, déjà. Ça fait plaisir. Juste, je vais laisser la responsabilité de donner une date à mon camarade Julien, parce que c'est lui qui se tape le plus gros du boulot avec le dessin, puisqu'il va se retrouver seul dessinateur aux commandes du tome 4, qui est déjà en cours, en fait. Le tome 3, c'est particulier. On a cumulé beaucoup de choses qui font qu'il est sorti beaucoup plus tard que prévu. On a tout eu. On a eu des naissances, des décès, des disputes, des moments de moins bien, et c'est un travail collectif. On est 4, 5, 6 à intervenir sur le même album. Quand ça se passe bien, ça va très vite. Quand ça se passe moins bien, ça s'arrête, ça prend du temps. C'est un travail de relation, d'échange humain, donc ça peut se gripper comme dans une équipe de foot pour un résultat très différent. On s'est engagé à essayer de sortir tous les un an et demi les albums. C'est ce qui s'est passé pour le tome 2, c'est ce qui aura dû se passer pour le tome 3 et c'est ce qu'on va viser sur le 4. On n'est pas dispersé sur 50 000 projets. Surtout pour Julien, pour les dessinateurs, ça demande du temps, donc c'est un travail quotidien. Mais c'est un projet où on passe beaucoup plus de temps que ce qu'on devrait. C'est pas rationnel, quoi. On travaille dessus tous les jours, on s'appelle, on s'envoie des textos tard le soir pour parler d'Elric, parce que ça nous habite, quoi. Ça nous accompagne depuis 6-7 ans maintenant pour moi. Et c'est un peu notre quotidien de travail et de discussion, quoi. Donc on est dessus, voilà.
Ouais, enfin, en fait, on est dessus, on a bien avancé déjà. Et en fait, je pense que l'objectif premier, ça serait de le proposer pour Angoulême 2019, en fait, qui est une date anniversaire pour Glénat. En fait, c'est les 50 ans de Glénat. Et nous a fait comprendre que ça serait quand même bien qu'on participe à cette fête-là. Donc voilà, donc ça, c'est le but premier, quoi.
C'est que tu as fait une promesse devant 300 000 personnes. Là.
Ouais, ouais.
Eh bien, merci à tous, merci à vous, et merci à Michael Moorcock, même s'il n'est pas là. On espère qu'on le verra bientôt. Merci, très bonne journée.